L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui, une fois par trimestre, invite l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, et en particulier sa juriste Valérie Boulch. Et à l'heure où le froid se fait plus mordant alors que les prix de l'énergie jouent au yo-yo, ça a bien monté du côté du gaz, c'est un peu redescendu. Du côté du carburant pour les voitures, c'est la flambée. Le fioul de chauffage aussi. Même le bois, très demandé, n'est plus si bon marché. En toile de fond, les questions plus vastes soulevées par le récent rapport de RTE, Réseau Transport d'Électricité, des questions sur les sources d'énergie, sur notre dépendance aux combustibles fossiles, le renouvelable, son acceptation, on pense aux éoliennes, ou alors plutôt du nucléaire. Oui, mais c'est dangereux. Ce serait provisoire ou ce serait encore pour longtemps? Bref, l'énergie, c'est un sujet vaste et complexe. Mais avec notre invité, on va plutôt se concentrer sur le côté pratique et social. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Déjà, on va faire un point sur le fameux chèque énergie dont on parle régulièrement, mais c'est jamais inutile de rappeler ce que c'est, pour qui c'est, comment ça fonctionne.
Alors, c'est un chèque, effectivement, qui est proposé... Pour les personnes sous condition de revenus, des personnes donc, qui ont un logement, donc imposable à la taxe d'habitation, c'est un des critères. Et après, c'est sous condition de revenus par rapport à votre revenu fiscal de référence. Normalement, il n'y a aucune démarche à faire, c'est automatique, ça passe par les impôts. Et effectivement, vous recevez votre chèque énergie chez vous. Alors, c'est un chèque qui, comme j'ai dit, sous condition de ressources et qui peut aller d'un montant de 48 euros jusqu'à un montant maximum de 277 euros. Donc
en
voilà, c'est en fonction en une fois. Oui, tout à fait. Donc c'est un chèque sur le Finistère qui à peu près arrive en avril chaque année. Donc ça fait maintenant 4-5 ans qu'il est en place. Il a remplacé des tarifs en fait qu'on appelait le tarif de première nécessité qui était pour l'électricité et le tarif de solidarité gaz qui était justement pour le gaz. L'idée a été d'ouvrir avec ce chèque, d'ouvrir à un plus grand mode de chauffage ou d'énergie. C'est-à-dire permettre aussi de payer le fioul, le bois, comme évoqué tout à l'heure, ou éventuellement certains travaux d'énergie, travaux pour améliorer la qualité énergétique de votre logement.
Ah oui, c'est en plus des primes style...
Voilà, sachant que le chèque maximum est de 277, ça reste quand même, mais ça peut être peut-être de se dire racheter un chauffage, un radiateur ou des choses comme ça, peut-être, finaliser sur un complément sur des travaux.
Et donc les conditions, c'est des conditions de ressources, c'est pas être locataire, propriétaire,
non,
ça peut importe.
Ce sont des conditions de ressources que vous soyez locataire ou propriétaire. En fait, on part de votre revenu fiscal de référence, après on prend des unités de consommation, donc une unité de consommation, c'est une personne. On rajoute le conjoint, l'autre personne de ménage, ça fait 0,5 unités. Et après, toute personne supplémentaire, c'est encore 0,3 unités. Et en fonction de ça, en fait, on va calculer le montant de votre chèque énergie.
Et donc, on est bien sur un chèque par foyer, non pas par personne.
On est bien sur un chèque par foyer. On va voir qu'effectivement, la prime inflation, enfin le chèque inflation, qui est pour le carburant, va être là, effectivement, par personne et non pas par foyer.
Et donc, pour le chèque énergie, on n'a rien à faire. Hein, voilà.
Démarche à faire.
Enfin, ceci dit, si jamais on pensait y avoir droit et qu'on ne le voit pas arriver en avril...
On s'en inquiète. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une plateforme qui existe, une plateforme Chèque Énergie, sur laquelle on peut aller. On prend son avis d'imposition, sur lequel on va trouver un numéro fiscal. Avec ce numéro fiscal, on va le rentrer sur ce site-là et on va vous dire si, effectivement, vous êtes éligible ou pas. Moi, ce que j'ai pu constater cette année, et ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est que j'ai vu des personnes qui, habituellement, avaient le Chèque Énergie, qui ne l'ont pas eu cette année, qui sont venues me voir. Et effectivement, quand je suis allée sur le site, en entrant leur numéro fiscal, ils n'étaient pas éligibles. Par contre, quand on va dans les sous-critères, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions, savoir est-ce que vous étiez habité en France à telle date, est-ce que vous êtes locataire propriétaire, et on se rend compte que les personnes sont éligibles. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas exactement, pour l'instant, je n'ai pas la solution, mais il faut quand même faire cette vérification et aller plus loin dans les critères. Et dans ce cas-là, après, il faut appeler la plateforme énergie qui va vous dire de transmettre des documents. La plupart du temps, c'est justement les avis d'imposition des deux dernières années et les avis de taxe d'habitation. Et ce qui peut poser souci après, c'est que justement, pour des personnes qui ne sont plus assujetties à la taxe d'habitation et qui, pour des raisons de revenus, n'ont pas non plus la redevance audiovisuelle, il n'y a aucun document sur l'espace particulier particulier au niveau des impôts. Donc, il faut réussir à avoir une attestation du Trésor public, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut accéder au Trésor public actuellement en raison des conditions liées à la pandémie. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous, de pouvoir être accueilli. Donc, effectivement, il faut, si vous pensez que vous avez droit au niveau de vos revenus, il faut soit vérifier par vous-même ou prendre contact avec une association telle que la nôtre, une assistante sociale ou autre, pour que les démarches soient effectuées et vous permettent d'en bénéficier.
Est-ce que le plafond de ressources, il n'a pas changé ces dernières années ?
Alors, on a même augmenté, en fait, le plafond de ressources. Donc, ces dernières années, il y a eu plus de personnes qui bénéficiaires, justement, du chèque énergie. Donc, logiquement, si vos revenus n'ont pas changé ou très peu, il n'y a pas de raison que vous ne soyez plus éligible. Les critères que l'on voyait au tout départ pour le fait de ne pas le recevoir, je dirais qu'il y avait deux choses. La personne qui ne savait qu'elle n'allait pas payer d'impôts, mais qui n'avait pas fait sa déclaration de revenus. Donc ça, c'est une obligation puisque vous devez avoir fait votre déclaration de revenus pour que le chèque vous soit envoyé. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez déménagé, vous n'avez pas prévenu suffisamment tôt les impôts. Donc l'adresse qui figure sur les impôts et à laquelle va être envoyé le chèque énergie est votre ancienne adresse. Si vous n'avez pas fait un suivi de courrier, le chèque est envoyé à votre ancienne adresse et vous n'envoyez pas la couleur. Donc là, on avait l'habitude de ces cas-là, mais cette année, j'ai vu plusieurs personnes ne pas bénéficier du chèque énergie en dehors de ces deux critères-là.
Et sinon, ouais, parce que sinon, en fait, admettons qu'un enfant quitte le foyer, on peut perdre éventuellement le bénéfice du chèque énergie.
Ça peut arriver, ça, puisque, comme je vous expliquais, on part du revenu fiscal de référence avec des critères d'unité de consommation. Donc, une personne, une unité, une deuxième 0,5, et effectivement, les enfants, chaque enfant supplémentaire, c'était 0,3. Donc, ça vous permettait d'augmenter le plafond des ressources et de permettre d'être éligible au chèque énergie. Le départ d'un enfant peut, oui, être une explication.
Et à l'inverse, si on accueille, une personne âgée chez soi, enfin, un parent, faut le signaler.
Être effectivement par rapport à votre déclaration de revenus. C'est là-dessus, c'est votre revenu fiscal de référence qui va entrer en ligne de compte.
Très bien. Alors, on en a parlé, mais on va en parler un petit peu plus précisément. Il y a ce chèque carburant, c'est pas vraiment son nom, c'est l'indemnisation inflation de 100 euros, c'est ça alors ? Pour qui ? Et quelles conditions ? Et pareil, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir ?
Alors, pour qui ? En fait, ça va être aussi sous conditions de revenus. Donc, ces conditions de revenus, ça va être de gagner moins de 2000 euros par mois. Donc, 2000 euros net, 2600 brut. Et normalement, toutes ces personnes, qu'ils soient salariés, étudiants, allocataire, je pense du RSA, allocation adulte handicapé ou étudiant, donc ou retraité, toutes ces personnes-là normalement devront percevoir. Alors ça va être sur un calendrier un petit peu étalé, parce que logiquement c'est fin décembre pour la plupart des salariés. Il me semble que les fonctionnaires ça devrait être janvier et tout ce qui va être chômeur, tout ce qui va être allocataire ou autre, retraité, ça devrait être à partir de février 2022.
Et donc là, on n'aura rien à faire non plus.
Logiquement, il n'y a rien à faire non plus. Alors, les salariés, ce sont les employeurs qui seront remboursés ultérieurement, qui vont verser à leurs salariés. Après, tout ce qui est étudiant, ça va être le CROUS, par exemple, qui verse déjà les bourses. Et les retraités, ça va être les caisses de retraite. Mais c'est justement, je pense, le temps de mettre tout ça en place qui fait qu'il y a un calendrier un petit peu étalé.
Et puis, c'est quel revenu moyen ils prennent en compte ? Parce que si on n'est pas salarié, par exemple, et qu'on a des revenus fluctuants...
Dans le détail, sincèrement, je ne serais pas capable de le dire, parce que je pense qu'eux-mêmes, pour l'instant, ils sont en train de regarder quels sont les critères et comment ça va être appliqué.
Oui, parce que les micro-entrepreneurs, par exemple...
Ça va être tout ce qui est indépendant, c'est ça qu'effectivement, il va falloir voir, parce que ce n'est pas un salaire mensuel. Donc, il y a effectivement des méthodes de calcul. Là, j'avoue que je ne maîtrise pas le sujet suffisamment.
Il faudra s'adresser à qui et quand, en gros
Alors après, pour les indépendants, je ne sais même pas comment ça va être versé. Je vais être honnête, j'ai pas trouvé cette information. Autant les salariés, oui, ce sont les employeurs, les caisses de retraite. Autrement, ça va être le CROUS et ça va être, je pense, tous ceux qui versent aussi pour les allocations. Ça peut être la MSA, la CAF.
À surveiller. Donc c'est 100 euros. Cette fois, c'est par personne.
Et c'est par personne. Oui, là, c'est pas
majeur.
Même
pas. Si.
Ah si, logiquement quand même, ça va être majeur. Ça ne sera pas effectivement calculé par foyer. On va pas prendre l'ensemble des revenus du foyer, mais bien les revenus individuels par personne.
Et en fait, c'est plus large que seulement le carburant, parce que on ne demande pas aux personnes si elles ont une voiture, si elles conduisent finalement.
Non, ils peuvent pas. Ouais. Ça serait trop compliqué. Donc effectivement, il y aura pas cette démarche-là. Quelqu'un qui ne conduit pas et qui n'utilise pas le carburant, dès lors qu'il est dans les critères retenus, bénéficiera de ce chèque.
Bon, ça sera que pour cette année, a priori. c'est pas destiné à être...
Ah, pour l'instant, non, c'est que c'est vraiment très ponctuel. Et puis, comment dire, ça va pas être... On va pas vous demander la preuve que vous l'avez utilisé pour acheter du carburant. Ça va être quelque chose, ouais, effectivement. Ouais. Le principe, c'est ça. C'est vraiment lié à ces augmentations du carburant assez phénoménales pour tenir compte, effectivement, de l'inflation. Mais vous n'aurez pas à prouver que vous l'avez utilisé pour telle et telle chose. À l'inverse du chèque énergie qui est utilisé, puisque c'est pas un chèque financier, vous n'allez pas recevoir une somme en argent, c'est bien un chèque papier que vous avez, mais pas un chèque qui s'encaisse, mais un chèque que vous pouvez utiliser auprès d'un fournisseur d'énergie, auprès d'un vendeur de bois, auprès d'un vendeur de carburant, comment dire, comme du fuel. Alors, voilà. Par contre, on n'a pas précisé tout à l'heure aussi, d'où l'importance pour le chèque énergie de bien vérifier qu'on est éligible, parce que si on ne l'a pas reçu et qu'on était éligible en avril, il va avoir quand même un complément qui va être versé de 100 euros qui devrait être versé en décembre. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir bien vérifier son éligibilité de manière à pouvoir bénéficier de ce deuxième versement exceptionnel cette année, oui. 200 euros en décembre, de bien vérifier que si on est dans les critères, qu'on y a droit,
en
et
effet.
De faire valoir son éligibilité.
Ça serait dommage de ne pas en profiter.
C'est sûr.
Alors, le tarif réglementé d'électricité, encore un autre sujet, et du gaz d'ailleurs, enfin de l'énergie, qui va prendre fin, donc je crois que c'est en 2024.
2023.
23, ah donc ça se rapproche finalement. On en a déjà parlé, mais on va peut-être revenir dessus, parce que là on reçoit des sollicitations notamment. Que recommande la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, aux personnes qui sont encore, par exemple, sous tarif réglementé? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, de prendre son temps et d'analyser les contrats. Il n'y a aucune précipitation à avoir, même si effectivement vous recevez des courriers, puisqu'il y a toute une procédure qui a été mise en place. Hein, là, donc c'est Engie, en fait, tarif réglementé, qui a depuis la date à laquelle il a été décidé que la fin des tarifs réglementés, donc que le tarif réglementé du gaz allait s'arrêter. Je précise bien qu'il n'y a pas d'arrêt pour l'instant prévu pour l'électricité. On n'est bien que sur le gaz, la fin du tarif réglementé gaz. Et donc, il y a, je crois, 5 courriers qui vont être envoyés tout au long de la procédure, jusqu'en juin 2023, date à laquelle le tarif réglementé n'existera plus. Alors, pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, le gaz réglementé n'est plus vendu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider tout d'un coup maintenant de dire bah voilà, je veux aller chez Engie tarif réglementé et bénéficier du gaz réglementé. Ça, c'est plus possible déjà depuis, je crois que c'est octobre de l'année dernière, ou c'est plus ancien que ça encore. Mais ça, c'est plus possible. Par contre, ceux qui sont actuellement, qui ont déjà un contrat de tarif gaz chez Engie tarif réglementé, peuvent en bénéficier effectivement jusqu'en juin 2023. Aucune précipitation à avoir, ça ne va pas se terminer du jour au lendemain. De toute façon, si vous n'avez pas fait votre choix, vous basculerez automatiquement sur une offre d'Engie à la date à laquelle le tarif réglementé se terminera. Maintenant, nous, ce que nous conseillons, c'est qu'effectivement de prendre le temps, de ne pas se laisser, c'est pas avoir parce que c'est pas le terme. Il y a beaucoup en fait de démarchages téléphoniques ou à domicile, dont certains peuvent être très agressifs. Hein. Je sais qu'il y a certaines actions nous qu'on a menées contre des fournisseurs d'énergie sur la manière dont ça se passe. Hein. On doit donner toutes les informations aux consommateurs de manière à ce qu'ils puissent faire un choix éclairé avant de signer et de s'engager. Il faut savoir que si vous signez un contrat au tarif déréglementé, puisque c'est le cas maintenant, vous pouvez à tout moment revenir chez un autre fournisseur. Vous ne reviendrez plus au tarif réglementé, mais vous pouvez toujours changer de fournisseur comme vous le voulez. Alors après, c'est à voir selon les offres. Alors, il faut regarder effectivement le tarif, mais c'est-à-dire le prix à la fois de l'abonnement, le prix du kilowatt. Alors, je précise bien kilowatt parce qu'en gaz, on parle de mètres cubes. Mais si vous regardez sur vos factures de gaz, effectivement, les index vont être calculés en mètres cubes. Et vous allez avoir une multiplication par un coefficient de conversion qui va vous transformer ces mètres cubes en kilowattheure. Et c'est sur cette base-là, en fonction de votre consommation annuelle, que je vous invite et que la CLCV vous invite à aller sur le site du médiateur de l'énergie. Il y a un comparateur donc, qui est indépendant, qui va vous permettre de remplir les critères, hein, c'est-à-dire votre consommation annuelle, la surface de votre logement, quel type de chauffage et autres, et qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des contrats qui existent et qui sont proposés aux consommateurs et de pouvoir tranquillement analyser chaque contrat. Donc l'abonnement, le prix du kilowatt, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les taxes. Alors il faut savoir que les taxes vont être les mêmes quel que soit le fournisseur que vous allez choisir. Parce que les taxes, c'est quelque chose de fixe, c'est l'État. Hein. Comment dire ? Donc ça, si on vous dit, vous allez chez un fournisseur, on vous dit, on vous fait 10%, 20% de moins sur votre consommation que l'autre fournisseur. Il ne faut pas que vous appliquiez ça sur la totalité de votre facture, mais bien sur l'abonnement et sur les taxes. Après, vous pouvez avoir aussi des choix de prix fixe pendant une certaine durée. Vous pouvez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a des offres comme ça jusqu'à 4 ans. Ça peut être une solution. Hein. C'est-à-dire que comme on voit que le prix du gaz fluctue énormément, le fait d'avoir un tarif fixe qui peut être intéressant à un moment donné et qu'il ne bouge pas, pourquoi pas ? Ça peut être une solution. Maintenant, il ne faut pas vous sentir contraint parce que c'est un contrat de 4 ans. Ces 4 ans-là n'engagent que le fournisseur, ils n'engagent pas le consommateur. Donc vous, si vous estimez que finalement le prix du gaz a descendu et que votre prix fixe qui était bien à un moment donné ne l'est plus, vous pouvez très bien changer de fournisseur. Donc il faut être
On pourra toujours comme ça changer de fournisseur facilement, normalement.
Tout à fait et gratuitement.
Ah oui, donc, aussi, oui.
En fait, il suffit d'appeler un autre fournisseur. Cet autre fournisseur va dire « Monsieur ou Madame est venu maintenant chez nous ». Et donc, tout le système va se mettre en place sans aucune démarche de résiliation auprès de l'ancien fournisseur. Juste petit conseil quand même. Même si maintenant, il y a beaucoup le compteur Linky ou le compteur Gaspard qui existe aussi pour le gaz et qui est un compteur communicant. Je vous conseille, quand vous changez de fournisseur, d'aller faire un relevé de votre compteur et de bien avoir l'index qui va être l'index de départ, de fin chez l'ancien fournisseur et l'index de départ chez le nouveau fournisseur.
Et d'expérience, la CLCV n'a pas constaté qu'il y avait des ruptures d'approvisionnement
Non. Franchement, j'ai pas vu ce problème-là. Après, on peut avoir des problèmes de facturation où les gens ne s'y retrouvent pas. Mais ça, ça peut être avec un fournisseur. Alors, je préfère faire la différence entre un fournisseur historique et un fournisseur alternatif. Les fournisseurs historiques, ce sont les fournisseurs avant qui étaient... on était dans des monopoles. Donc, EDF pour l'électricité, c'était GDF pour le gaz. GDF qui est devenu Engie, pour qu'on suive un petit peu. Donc, ils sont plus ensemble parce qu'on a eu EDF, GDF longtemps et les gens sont toujours un peu perdus et font pas forcément encore la différence. Donc, on a ces fournisseurs historiques qui avaient le monopole, un pour l'électricité, un pour le gaz. Et en 2007, il y a eu une ouverture du marché de l'énergie donc à la concurrence. Et là, on a vu à venir des fournisseurs alternatifs. Donc, on a cette différence-là. Je dirais que moi, la différence, c'est vrai que c'est que les fournisseurs historiques, l'intérêt qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement ils sont présents depuis très longtemps et ils ont des services clients ou consommateurs qui sont quand même habitués et peut-être en plus grand nombre. Voilà la différence peut-être entre un fournisseur historique et un fournisseur alternatif. Maintenant, faut aussi savoir, c'est que l'énergie qui arrive chez vous, c'est la même quel que soit le fournisseur que vous avez, puisque là, ce sont les distributeurs, donc Enedis ou anciennement ERDF, qu'on a entendu beaucoup parler par rapport au compteur Linky, qui vous amène l'électricité jusqu'à chez vous, et GRDF pour le gaz. Donc, normalement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, quand vous changez de fournisseur, s'il n'y a pas de problème au niveau de la facture, au niveau des index, au niveau du compteur ou autre, tout se passe bien. Ça, on va faire en fonction du contrat. Le problème, c'est que quand il y a un souci d'un problème de compréhension de la facture, d'index estimé, d'erreur d'index, d'erreur de compteur, de relevé de compteur, eh ben effectivement, là, on se voit qu'on se retrouve des fois plus en difficulté, peut-être avec un fournisseur alternatif, qu'à moins le recul qu'un fournisseur historique. Voilà à peu près la différence qu'on peut avoir.
Alors, sur le tarif réglementé, donc c'est pour le gaz que ça prendra fin en 2023.
Tout à fait.
Pour l'électricité, pour l'instant, ça reste jusqu'à nouvel ordre, c'est ça ?
Jusqu'à nouvel ordre, ça reste. Et nous, on est pour ce maintien du tarif réglementé, puisque c'est une sorte de gage de sécurité, on va dire. C'est une sorte de mesure étalon et qui permet effectivement de gérer un peu les tarifs, même si les fournisseurs alternatifs sont à l'origine justement de la fin du tarif réglementé du gaz, puisqu'ils ont saisi le Conseil d'État qui effectivement a constaté que... a conclu qu'on ne respectait pas la réglementation communautaire et a décidé d'effectivement d'acter la fin du tarif réglementé. Parce qu'en fait, les fournisseurs alternatifs estiment que la présence du tarif réglementé est un frein à la concurrence. Maintenant, les tarifs sont quand même assez élevés malgré tout. Est-ce que ça joue vraiment ce rôle-là ? Voilà, le doute, il est plutôt là.
Et pour l'instant, il n'y a pas d'action en cours pour l'électricité, pour déréguler l'électricité.
Pas à notre connaissance, et on croise les doigts pour que le tarif réglementé puisse rester. Donc, en tout cas, on se bat pour les associations de consommateurs, la CLCV en tête, on va dire, se bat pour le maintien du tarif réglementé.
D'accord. Alors, L'énergie, c'est aussi sur le long terme des travaux de rénovation énergétique de son logement. Alors, mercredi, c'est la journée nationale de la précarité énergétique, donc on sera en plein dedans. Quelles sont les aides encore? Parce que là, en fait, il y a eu des tas de réformes quand même sur les aides à la rénovation énergétique, donc on ne sait plus trop où on en est. Et qui, pareil, pour qui, comment Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, je vais donner des informations très générales parce qu'effectivement, la CLCV n'est pas vraiment la spécialiste en matière de primes. Là, pour ça, je vous invite quand même, pour avoir des détails, rencontrer des personnes qui vont être compétentes, à vous rapprocher de ce qu'on appelle les agences locales de l'énergie. Il y en a plusieurs sur le Finistère. Vous avez l'Alecop pour le pays au niveau de Carhaix. Vous avez Énergence, secteur de Brest, et Hall sur le secteur de Morlaix. Et c'est Quimper Cornouailles Développement, je crois, à Quimper. Donc, eux, c'est vraiment leur domaine. Ils ont des conseillers spécifiques là-dessus et qui pourront vous aider en vous expliquant les différentes aides qu'il existe. Alors, la plus connue, je pense, pour l'instant, ça va être ma prime Rénov, que vous pouvez solliciter, qui avant le 1er janvier 2021, était, ne s'adressait qu'à un certain public, puisque c'est sous condition de revenu. Alors, c'est toujours sous condition de revenu, mais maintenant, l'aide va être modulée, il me semble, en tout cas, pour ce que j'ai compris, moi, à partir du 1er janvier 2021, donc là, on arrive en fin d'année, peut être pour propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, et après l'aide sera modulée selon les revenus. Mais ça vous permettra de monter un dossier et d'avoir des aides en matière de travaux d'économie d'énergie.
Quel qu'il soit, il y a quand même certains travaux qui ne sont pas considérés.
Après, il faut vraiment que ça permette une réduction d'énergie. Et après, c'est justement, il me semble qu'il y a aussi il faut que ça apporte une baisse de consommation d'énergie suffisante pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Maintenant, pour les détails, c'est vrai que je risquerais de dire des bêtises. Je vous invite à vous retourner vers les agences locales de l'énergie. Après, vous avez aussi des petites choses aussi quand vous achetez, faire certains travaux ou quand vous achetez certains produits. On a aussi les certificats d'économie d'énergie, en fait, c'était le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les fournisseurs ou les vendeurs d'énergie, en fait, doivent prouver qu'ils ont, participé à la réduction, de la consommation d'énergie. Et donc, pour l'achat, par exemple, d'une pompe à chaleur, d'une chaudière ou autre, vous pouvez bénéficier de certificats d'énergie, donc de remboursement d'une certaine somme. À un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait certaines grandes surfaces qui le faisaient, Leclerc ou autre. Après, vous avez des organismes qui le font et vous pouvez récupérer une certaine somme. Mais alors, prenez toujours par contre la précaution que ça soit pour toute demande d'aide en matière énergétique ou autre. Le principe, c'est qu'il faut faire la demande au stade du devis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, je fais les travaux, j'y ai droit et je reviens après. Non, il faut toujours avoir ce préalable, c'est-à-dire qu'on est au stade du devis et c'est à ce moment-là qu'il faut faire la demande, avant d'avoir engagé les travaux.
Et attention, toujours quand même, même s'il y en a un peu moins maintenant, au démarchage abusif, voire frauduleux.
C'est vrai que c'est assez cyclique, en fait. Mais c'est vrai qu'on va avoir en matière d'énergie, nous, affaire à beaucoup. On a eu beaucoup les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, les éoliennes de toit. Ah oui. Des choses de ce genre-là. On a eu aussi tout ce qui est isolation. Là, on avait à un moment donné, il n'y a plus la prime coup de pouce là qu'on appelait l'isolation à 1 euro. Donc après, les gens, la plupart du temps, les gens ont été contents. Mais pourquoi ? Parce que pour 1 euro, on leur faisait des travaux d'isolation de leur comble ou de leur isolation de leur sous-sol. Par contre, sur la qualité du travail qui a été effectué, après, si on vous rend un chantier propre, c'est bon, mais vous savez pas exactement ce qui peut arriver. Et nous, je sais qu'on m'avait expliqué le cas, notamment dans les combles, où on rajoutait effectivement de l'isolation, soit, mais il y avait des risques d'incendie dans le sens où on recouvrait des installations électriques, il y avait plein de choses comme ça.
Ou de la ventilation,
Et donc, nous, en tant que néophytes en matière de travaux, Donc, après, cette volonté de vouloir développer et d'isoler un maximum de logements, parce qu'effectivement, c'est très important, c'était une bonne chose, mais malheureusement, toutes ces personnes-là surfent souvent sur la vague, on va dire, verte, où on vous dit, vous allez faire des économies d'énergie,
c'est bon pour la planète.
C'est bon pour la planète, Donc, il y a souvent, effectivement, des risques à ce niveau-là. Donc, se dire que si vous êtes démarché, que vous signez un contrat, alors, votre signature vous engage. C'est pas simplement, certaines personnes me disent, mais j'avais le sentiment de signer qu'un... c'était pas un contrat, pour moi, c'était une proposition. Mais il faut savoir que dès lors qu'on signe un devis, qu'on signe même une proposition de travaux, ça devient un contrat. La proposition ou le devis, ça n'engage effectivement qu'un professionnel de vous faire des travaux à un prix donné, selon telles et telles conditions, pendant une date donnée. Mais si vous signez en retour cette proposition, ça devient un contrat, puisqu'il y a un engagement de part et d'autre. Donc, vous êtes engagé. Donc, à savoir que si vous êtes démarché chez vous ou par téléphone, il y a un délai de 14 jours, il ne faut pas hésiter à en faire utilisation. mais pas de mettre la tête dans le sable et de dire oh, j'ai fait une bêtise, j'arrête. Non, au contraire, je sais que c'est compliqué, on a toujours, on se sent mal à l'aise, on a l'impression d'avoir fait une bêtise, ou on ne le dit pas à sa famille ou autre, parce qu'on a beaucoup des fois de personnes âgées qui se font avoir aussi, qui préfèrent pas le dire. Non, non, c'est important, si on peut réagir dans les 14 jours qui suivent la signature, on peut mettre un terme à ce contrat. Et si après vous souhaitez quand même, vous êtes vraiment intéressé par ce type de travaux, je vous invite à faire des devis, hein, vous renseigner avec des artisans locaux et dans ce cas-là, décider de faire ces travaux, mais en toute connaissance de cause, et pas parce qu'une personne est restée 3 à 4 heures chez vous et que vous avez signé parce que vous n'en pouviez plus.
C'est ça. Et là-dessus, bon, c'est pareil, hein, les agences dont on a parlé tout à l'heure.
Elles sont tout à fait à même de vous renseigner. Et autre critère, quand je disais qu'il fallait que ça soit au stade du devis, donc avant que vous ayez signé le devis, il y a aussi une autre importance, c'est qu'il faut que les travaux soient réalisés donc par des artisans, ce qu'on appelle RGE.
Agréés.
Voilà, artisans reconnus, garants de l'environnement. Et ça, vous pouvez. Alors, pour retrouver, parce qu'on me dit toujours, mais comment je fais pour en trouver ? Alors, d'une part, ils le mettent sur leur papier en tête ou autre. Ouais. Mais pour vérifier, vous avez un site qui s'appelle Faire, comme le verbe faire, F-A-I-R-E, et vous allez pouvoir retrouver tous les artisans qualifiés RGE. Ou vous renseigner aussi auprès des ALE, des agences locales de l'énergie, ils pourront tout à fait vous renseigner là-dessus.
Très bien, merci. On va rester sur tous ces conseils. Merci Valérie. Donc la CLCV qui revient dans 3 mois, dans l'EM, ce sera très exactement le 28 février. À bientôt.